Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être à l'écoute de Mélomanie. Très heureux de saluer fidèles et nouveaux auditeurs du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les températures de ce mois de mai passent par des hauts et des bas, mais l'agenda musical reste constant dans le nombre et la qualité des événements proposés, c'est-à-dire à un haut niveau. Vous allez encore pouvoir le constater tout au long de ce numéro, pour lequel j'ai la chance de recevoir plusieurs membres éminents de notre petite bande de mélomaniaques. À mes côtés dans ce studio, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Également présent, son complice Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Je salue aussi le retour de Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, directeur de l'Orchestre En Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir un invité d'honneur, le jeune et très talentueux guitariste Thibaut Garcia, qui vient tout juste, avec d'autres passionnés, de lancer la future saison, et même l'association, on peut le dire, Toulouse Guitare. Nous en parlerons avec lui en seconde partie d'émission. Bienvenue à tous les quatre messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de Mélomanie. En attendant de parler de Toulouse Guitare, nous allons revenir maintenant sur les concerts des jours précédents, en abordant la première partie de ce numéro.
Mélomanie, retour arrière.
Il vous avait été annoncé et présenté il y a 2 semaines dans Mélomanie. L'Orchestre National du Capitole a donné des concerts à la Halle aux Grains les samedis 5 et 12 mai. Le premier sous la direction de Bruno Mantovani et avec le pianiste Roger Muraro. Le second sous la direction du chef allemand Clemens Schulte et avec la violoniste lettonne Baibas Kreide. Nous allons procéder dans l'ordre chronologique et revenir d'abord sur le concert du 5 mai. Il proposait un programme intitulé « Modernité française » avec le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, notation 1 à 4 pour orchestre de Pierre Boulez et Amérique pour orchestre d'Edgar Varèse. Autrement dit, que des œuvres et des compositeurs français, joués par un orchestre et un pianiste français, eux-mêmes dirigés par un chef français. Les deux Serge étaient présents à ce concert. Serge Krichewski était même dans l'orchestre. Est-ce que le génie musical français du XXe siècle a brillé ce soir-là, Serge Chauzy?
Ah bah oui, je crois qu'on peut le dire, hein, effectivement. L'œuvre la plus connue, c'était quand même le concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, qui était encadré par deux œuvres, on pourrait dire, modernes. Et je mets des guillemets au mot moderne, puisque c'est un mot qu'emploie beaucoup Bruno Mantovani d'ailleurs. Il y a eu de la musique moderne à toutes les époques, hein, et à toute époque, la musique composée est une musique contemporaine. Hein. Donc il ne faut pas oublier ça. Et donc là, c'était vraiment intéressant de pouvoir entendre, outre le concerto pour la main gauche de Ravel, qu'on entend quand même relativement fréquemment, oui, on pourrait dire, oui, avec l'autre concerto de Ravel, le concerto en sol, mais ce qu'on entend très rarement, c'est ce que l'on a entendu avant et après, c'est-à-dire les notations 1 à 4 pour orchestre de Boulez et la gigantesque fresque sonore d'Edgar Varèse qui est Amérique avec un S. Bon, commençons par Ravel. Hein. Ravel était interprété par un grand spécialiste de ce répertoire qui était Roger Muraro. Roger Muraro est à la fois un grand spécialiste de Ravel et de Messiaen. Ne l'oublions pas, il joue beaucoup Olivier Messiaen. Bon, c'est une sonorité magnifique. Et dans ce concerto, en un mouvement, ce concerto tellement dramatique qui est comme un immense crescendo. C'était vraiment très très beau. L'équilibre était bien maintenu avec l'orchestre, ce qui est difficile. Alors, concerto pour la main gauche, on avait l'impression qu'il avait 3 mains. Donc, c'est tout à fait impressionnant. Alors, quelle écriture de Ravel est faite pour ça? Très très bon moment que ce concerto de Ravel. Et puis donc, les deux autres œuvres, le tout dirigé par Bruno Mantovani, donc il faut redire quand même qu'il est à la fois chef d'orchestre,
compositeur
et directeur du conservatoire de Paris. Triple mission, en quelque sorte. Et donc là, il y avait d'abord les 4 notations de Boulez, qui sont un prolongement des premières 12 notations.
Pour piano?
Pour piano, initialement.
Composé en 45.
En 45, et cela, c'est 40 ans plus tard qu'il a, on ne peut pas dire orchestré, parce qu'il a même rajouté des choses pour les 4 notations. Donc c'était pour la plupart d'entre nous des découvertes au concert. Hein. C'est des choses qu'on peut entendre en enregistrement, mais au concert, je crois que ça n'avait jamais été donné à Toulouse, enfin j'ai l'impression. Hein. C'était extrêmement beau, extrêmement bien fait, et c'est ce que je pourrais appeler une sorte de musique de chambre pour grand orchestre. Il y a quand même 110 musiciens, mais on avait l'impression, par moments, de musique de chambre, puisqu'il y a des contrastes extraordinaires, des couleurs très françaises. Donc, moi, j'ai vraiment été tout à fait conquis par ces quatre pièces, courtes pièces, hein, puisque l'ensemble fait à peu près 8 à 9 minutes, hein, donc c'est très court. Et puis donc, l'événement en quelque sorte, c'était quand même la grande pièce d'Edgar Varèse, compositeur français émigré aux États-Unis, qui lorsqu'il est arrivé aux États-Unis a eu un tel choc qu'il a voulu composer une espèce d'ode à ce pays neuf, et donc il a composé Amérique. Alors il y a plusieurs versions orchestrales, une grande version qui est pour 155 musiciens. Et là, nous avions la petite, je mettrais vraiment double guillemets, puisqu'il n'y avait que 130 musiciens pour jouer cette œuvre.
Tout petit effectif.
N'est-ce pas? Donc 15 percussionnistes tout de même,
oui,
hein, parmi lesquels des sirènes d'usine et autres beautés. Bon, c'est une œuvre complètement fascinante, hein. Je crois que c'est à peu près l'équivalent, mais dans un autre style évidemment, du Sacre du Printemps.
Du Printemps, oui, sorte, ça se parle, hein, effectif aussi déjà.
Oui, oui, mais
c'est aussi parler le côté très percussif.
Côté, voilà, oui, avec des contrastes, ça commence très doucement, puis il y a des emportements, des crescendo, des couleurs. C'est une œuvre vraiment qui mérite une diffusion importante, mais malheureusement qui réclame systématiquement un effectif tout à fait exceptionnel. C'est une œuvre impressionnante, hein, impressionnante, et que l'orchestre a magnifiquement joué, vraiment.
Et bien justement, nous avons un membre de l'orchestre qui a joué toutes ces œuvres, les trois que vous avez citées, Serge Krichevski. Vu de l'intérieur, qu'est-ce que ça donnait?
C'est un peu comme sortir d'un volcan ou être à l'intérieur d'un volcan, en tout cas pour Amérique. Alors d'ailleurs, il faut préciser tout de suite qu'Amérique, c'est avec un S, c'est-à-dire que pour Edgar Varèse, c'était l'exploration en arrivant vraiment sur le sol des États-Unis, l'exploration aussi de nouveaux territoires musicaux. Et il a voulu, par cette œuvre, avec l'autre œuvre jumelle qui s'appelle Arcana, qui date, il faut le préciser, quand même des années 25-27, hein. La première version d'Amérique, c'est même 1918, je crois. C'est pas vraiment moderne, enfin c'est extrêmement âpre et très très dissonant. Alors il a voulu repousser la limite entre la consonance, se rapprocher de la frontière entre le son pur et le bruit, parce qu'il est clair que l'introduction d'un très grand nombre de percussions, de sirènes comme ça, de l'état de la police de New York, qui a d'ailleurs un rôle très ponctuel, très structurel, enfin à plusieurs points répétés de la pièce. Il y a aussi des références à la musique russe au début, quand même Stravinsky est assez souvent présent, mais c'est une œuvre tellurique vraiment, qui a des soulèvements comme ça de matière sonore incroyables. C'est pas fréquent dans l'œuvre de Varèse, parce qu'à part ses deux grandes œuvres, Amérique, Arcana, il a écrit des œuvres pour ensembles beaucoup plus petits, des ensembles de 8 à 10 musiciens. Il y a une pièce qui s'appelle Octandre, qui est vraiment fantastique. Il y a des premières pièces pour percussion seule, ionisation. Voilà, c'est un compositeur qui a terminé sa vie dans un semi-oubli, mais qui a quand même cherché à innover avec de la musique avec bande magnétique. En revenant en France, il y a eu un fameux concert.
Le concert de Désert.
Voilà, où Désert était créé en même temps que la symphonie pathétique de Tchaïkovski, ce qui faisait un contraste absolument saisissant et malheureusement défavorable à Varèse, mais bon, compositeur vraiment très très singulier, oui.
Un mot sur Roger Muraro, peut-être.
Muraro, très grand interprète, effectivement très sympathique, grande personnalité, qui a joué magnifiquement. On avait fait d'ailleurs la Turan Galila symphonie avec lui une fois, et puis oui, c'est toujours agréable, un plaisir de le retrouver.
Serge, vous vouliez préciser quelque chose.
Oui, je voulais préciser que Roger Muraro a donné un bis. Il est toujours intéressant de dire de quel
bis
il s'agissait. Il s'agissait de la fameuse pavane de la Belle au
premier mouvement de Ma Mère Loi.
De Ravel,
oui,
Ravel, oui, bien sûr.
Magnifique.
De Ma Mère
Loi,
extrait de Ma Mère Loi, qu'il a joué avec une poésie extraordinaire. Il a un son particulier, vraiment très très beau.
Alors, Roger Muraro, qu'on pourra écouter aux Arts Renaissants dans la prochaine saison des Arts Renaissants, puisqu'il est programmé, ainsi que Thibaut Garcia d'ailleurs, mais on en parlera un peu plus tard dans cette émission. Nous avions écouté un extrait des Notations pour orchestre de Boulez lorsque nous avions annoncé ce concert. Je propose donc aujourd'hui d'écouter la pièce d'Edgar Varèse, parce qu'on a rarement l'occasion de l'entendre, ce qui est bien dommage. Voici le début d'Amérique pour orchestre d'Edgar Varèse. Le début d'Amérique pour orchestre d'Edgar Varèse, une version de l'orchestre du Conservatoire de Paris et de l'ensemble intercontemporain dirigé par Mathias Pincher. C'était une des trois œuvres jouées lors du concert du 5 mai à la Halle au Grain. Depuis, il y a donc eu un autre concert de l'Orchestre National du Capitole au même endroit samedi dernier. Le chef allemand Clemens Schulte dirigeait l'ensemble symphonique toulousain et la violoniste lettonne Baibas Kreide s'est jointe à eux pour jouer le concerto pour violon numéro 2 de Prokofiev. Au programme, il y avait également l'ouverture de Manfred de Robert Schumann et la troisième symphonie, l'héroïque de Beethoven. Serge Chosy, vous étiez encore présent. Vos impressions?
Alors, c'est toujours intéressant de découvrir de nouveaux interprètes. Hein.
Et le nouveau chef, là.
Et en l'occurrence, le nouveau chef, parce que la soliste était déjà venue, donc Baibas Kreide était venu jouer le concerto de Sibelius, magnifiquement d'ailleurs, en 2015, si je me souviens bien. Et donc, là, en l'occurrence, on a découvert ce jeune chef, un jeune chef dynamique, je dirais même nerveux, qui a une gestique explosive et vraiment qui ne laisse pas indifférent. Alors, il y a des choses qui m'ont un peu déconcerté, c'est ce qui concerne le Manfred de Schumann, que j'ai trouvé particulièrement agressif. Mais pourquoi pas, hein ? Donc on a l'habitude à plus de lyrisme dans une œuvre comme ce Manfred. Par contre, la symphonie héroïque qu'il donnait en deuxième partie de concert, alors là, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il intervenait vraiment, il faisait des choses. Et les quatre mouvements de la symphonie, bon, c'est une symphonie un peu révolutionnaire, il faut le reconnaître. Hein, c'est une rupture par rapport au passé, par rapport à Haydn, par exemple. Hein, et là, il en a fait des choses tout à fait intéressantes. À l'évidence, il s'est basé sur le côté, je mets de double guillemets, baroque, en ce sens qu'il demandait à ce que les cordes ne vibrent pas. Donc c'était très linéaire, mais très fin et très bien fait. Là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un grand intérêt. Il a pris le fameux mouvement de la marche funèbre dans un tempo plus allant que ce que nous ont laissé les grands chefs post-romantiques du XXe siècle, mais c'était bien fait. Et le dernier mouvement, notamment, avec alors une trouvaille, je vais me tourner vers Serge Krichevski. Il y a un moment, à l'exposé du thème, son thème et variation pour le quatrième mouvement, et à un moment, c'était un quatuor à cordes. Il y avait premier violon, un second violon, un violoncelle et un alto.
Au milieu du mouvement?
Oui.
Oui, alors ça, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a donné cette idée-là. C'est pas rare, mais dans les symphonies de Haydn en particulier, vous en parliez, de voir un quatuor tout d'un coup isolé pour une section. Il y a la symphonie 93, bon, le mouvement lent commence par le quatuor et ensuite toutes les cordes rejoignent. Mais là, en milieu de mouvement, dans une symphonie aussi développée,
c'est une des variations qu'il a fait jouer de cette manière-là, où il n'y avait que les cordes. Normalement, c'est
Vois. C'est après l'exposé du thème. C'est quand il y a les cordes dont chaque famille se rajoute. Oui, ben pourquoi pas, pourquoi pas.
C'est une bonne idée. C'était très original, très intéressant. Hein, bon, ça renouvelle un peu le propos. Alors, le fait qu'il ne fasse pas vibrer les cordes, ça donne une espèce de pureté du discours qu'on n'avait pas dans les interprétations, j'allais dire traditionnelles, en particulier les interprétations dans lesquelles les cordes tissent une sorte de moquette confortable sur laquelle les vents se détachent. Là non, là c'était vraiment égalité, hein. Il y avait une belle énergie.
Ce qui est étonnant, vous le disiez, c'est une symphonie qui est déjà révolutionnaire, qui tranche quand même par l'esthétique. On peut dire qu'il y a un changement de paradigme. Il y a une très forte surprise qui a dû naître à la première audition de cette œuvre et qui continue d'ailleurs. Et du coup, là, c'est l'attirer plutôt vers ce qui précède, alors que justement, elle ouvre un peu un nouvel ère musical et même l'esthétique, c'est-à-dire le pathétique qu'il y a souvent dans cette symphonie, bon, la marche funèbre en particulier, et puis à d'autres moments, pourrait plutôt engager à faire plus de pathos, plus de vibrato.
Mais le vibrato, je crois qu'il a été prouvé que le vibrato systématique dans les cordes, il date du XXe siècle.
Oui, bien sûr.
Mais donc, il l'a joué dans cet esprit-là. Et vraiment, il y avait un bel équilibre de grands contrastes dynamiques, mais bien maîtrisés. Moi, j'ai été séduit par cette vision personnelle. Et puis donc, il y a eu ce concerto de Prokofiev, le deuxième concerto pour violon.
Vibrato ?
Alors là, avec vibrato. Ah oui, effectivement. Joué vraiment avec beaucoup de lyrisme, beaucoup d'intensité par cette jeune violoniste qui vraiment développe des qualités à la fois sonores, de phrasé, de finesse. Elle ne s'est pas contentée de souligner le côté percussif de Prokofiev, mais elle a vraiment joué avec beaucoup de cœur, avec des accents très émouvants. La première phrase du premier mouvement qui était a cappella, à découvert, hein, déjà on était dans l'ambiance. Là. C'était vraiment très bien. Donc c'est quelqu'un que l'on aimera revoir à Toulouse. Elle aussi a donné un bis, comme la plupart des solistes qui viennent. Alors, un bis qui est signé du très célèbre Johann Paul von Westhoff.
Oui, tout le monde le connaît.
N'est-ce pas ? A écouté l'œuvre pleine d'arpèges. On avait l'impression que c'était du Arvo Pärt. Ah, Balt. Eh bien non, c'était de ce monsieur von Westhoff qui est antérieur à Jean-Sébastien Bach.
Ah oui.
Donc voilà, on a découvert une œuvre grâce à Bach Bascribe. Non, c'était vraiment très très beau.
Bon, bah alors écoutez, on va se faire un petit plaisir en faisant entendre un extrait de la 3e symphonie de Beethoven. Alors, c'est pas une version de l'Orchestre National du Capitole, c'est une version de l'Orchestre Symphonique de New York dirigée par Leonard Bernstein. Ça doit être pas mal non plus. Le début de l'héroïque de Beethoven. Le premier mouvement de l'héroïque, la symphonie numéro 3 de Beethoven, interprétée ici par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein. Elle était au programme du concert donné samedi dernier par l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains. Alors comme nous avons la chance d'avoir dans ce studio le musicien qui l'a donné, je voulais qu'on revienne aussi sur le concert de la saison des grands interprètes du 3 mai. Il a eu lieu à Saint-Pierre-des-Cuisines et il a été joué par, devinez qui ? Eh bien par Thibaut Garcia ici présent. Votre programme s'intitulait Leyendas et il était largement constitué de pièces de compositeurs espagnols ou sud-américains. Évidemment, il est difficile pour nous d'en parler devant vous. J'aimerais cependant, pour commencer, vous poser une question un peu personnelle. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer à Toulouse, devant le public toulousain, dans une salle que vous connaissez bien, Saint-Pierre-des-Cuisines, puisque c'est la salle du conservatoire où vous avez été élève? Est-ce que vous ressentez une émotion, ou peut-être même une pression particulière?
Vous venez de le dire, c'est vrai que jouer à Toulouse, c'est très particulier, c'est beaucoup d'émotions, mais c'est pas le plus facile. C'est-à-dire que forcément, il y a toute la famille, il y a les amis...
Il y a les anciens professeurs.
Il y a les anciens professeurs, je connais la salle, donc quelque part, je suis à la maison... Mais être à la maison, ça veut dire que tout le monde nous connaît et que c'est difficile de s'en sortir si jamais on sent une petite nervosité ou quoi, tout le monde va la sentir. En revanche, j'essaye de prendre ça avec plus de simplicité et c'était vraiment un grand moment pour moi et comme je disais, plein d'émotions et j'ai vraiment adoré. Ce sera un des beaux concerts de cette année, de cette saison-là.
Alors, le programme, c'était Leyendas. Comment vous l'avez conçu, ce programme, et de quel compositeur, de quelle pièce est-il constitué?
Alors, Leyendas, c'est le titre du dernier album que j'ai sorti autour de la musique espagnole. Donc, je voulais aussi présenter cet album-là à Toulouse, puisque ça faisait, je crois, 3 ans que j'étais pas venu jouer en solo à Toulouse. J'avais joué avec l'Orchestre du Capitole. Je suis venu l'an dernier avec Anaïs Constant en duo, récital en duo. Donc j'avais envie de présenter mon album solo à Saint-Pierre-des-Cuisines et donc de la musique espagnole du dernier album, mais aussi quelques pièces du prochain album qui va sortir en octobre avec par exemple la cathédrale de Agustín Barrios Mangore ou encore la chaconne de Bach puisque le prochain album sera un hommage à Bach. Et aussi, je voulais montrer un côté moderne avec de nouvelles pièces, comme la pièce de Olga Melkina Vera, qui est une compositrice biélorusse qui vit aux États-Unis. et bien sûr un compositeur toulousain. Il s'agit de Vincent Joquin et de son moment musical pour guitare.
Non, lui, il est contemporain, vraiment, Vincent Joquin.
Si contemporain qu'il était présent dans la salle.
Il était même dans la salle, voilà. Serge Chosy, vous étiez aussi présent. Et vous avez écrit d'ailleurs un très joli papier enthousiaste sur ce concert.
Je n'ai que des choses positives à dire. D'abord sur le jeu, évidemment, de Thibaut Garcia, qui est un jeu à la fois très virtuose, mais dans lequel la virtuosité se fait oublier. On n'y pense plus. Évidemment que tout est en place, tout est bien fait, mais c'est pas ça qui compte, hein, c'est la musique. Hein, et la musique, elle est là. Donc, alors, il faut préciser, effectivement, que ce programme était extrêmement varié, avec des découvertes. Cette pièce dont vous venez de parler, qui s'appelle The Heaven's Hundred, donc les cent du paradis apparemment, d'Olga Melkina Verava de Biélorussie, ah, c'est une pièce avec des harmonies étonnantes. Vraiment, on sent que c'est une pièce actuelle. Hein. Mais pas seulement, il y a une grande virtuosité, mais là aussi une virtuosité qui sait se cacher derrière l'expression musicale. Donc vraiment, c'était une belle découverte. Puis la pièce de Vincent Joquin, qui est un compositeur local, un compositeur toulousain, dont on avait déjà donné des œuvres en concert ici à Toulouse, et qui est une œuvre, ce moment musical, je dirais, je l'ai écrit que c'est un peu une musique du bonheur, c'est vraiment une œuvre heureuse, épanouie, vraiment du grand plaisir.
D'ailleurs, si je peux me permettre par rapport à cette œuvre, moi je trouve que cette œuvre lui ressemble beaucoup. C'est-à-dire que cette œuvre, pour moi, je l'associe vraiment à Vincent Joquin en tant que personne, et c'est pour ça aussi que j'aime tant la jouer, c'est qu'elle lui ressemble vraiment. Oui. Et vous dites, c'est une musique un peu du bonheur, mais c'est quelqu'un qui aime la vie, donc.
Oui. Bah, ça, se sent, tout à fait, tout à fait.
Puis alors, la jouer en face de lui, ça doit être encore autre chose.
Ah oui, c'est très spécial.
Quand le compositeur est en face
là aussi,
de
c'est pas facile, vous me demandiez, par exemple, avoir le compositeur dans la salle, c'est pas facile, un moment vraiment spécial.
Vous évitiez son regard quand vous jouiez?
Non, pas du tout. Non, en plus, c'est quelqu'un de très bienveillant, donc pour le coup, ça allait.
Je peux dire à la fin du concert qu'il était ravi. Alors là, le compositeur n'était pas dans la salle, puisqu'il s'agissait de Jean-Sébastien Bach.
Ah bon, il n'est pas venu?
Non, il n'est pas venu, il ne s'est pas déplacé. Et c'était magnifique, ça, cette chaconne, la fameuse chaconne pour violon, hein, qui n'est qu'un morceau de l'ensemble de la pièce, évidemment, mais quelle pièce, hein. On avait l'impression que c'était écrit pour la guitare, hein, donc c'est ça qui fait plaisir, c'est une transcription. Alors je voudrais poser la question justement à Thibaut, est-ce qu'il y a eu une transcription pour Luth, par exemple?
Oui, il y a, je crois, Hopkinson Smith qui a enregistré une version de la chaconne, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, de toute façon, la chaconne a été adaptée à beaucoup d'instruments, c'est un monument du répertoire. Donc,
Non, mais l'époque baroque est très propice à toutes les transcriptions possibles et imaginables. Ouais, Bach lui-même a transcrit les concertos de Vivaldi. Bon, donc, puis j'ai vraiment fondu à écouter la Studias d'Albéniz. Ah, quelle merveille. Bon, c'est une pièce tellement connue que finalement, on a l'impression que ça coule tout seul. Mais non, c'est une pièce admirable. Et vraiment que Thibaut a joué avec une finesse, avec une reprise piano, là, des choses qui font plaisir. C'était un grand bonheur. Et puis, il y a eu quand même, à côté d'autres pièces espagnoles, il y avait les pièces argentines de Piazzolla, donc les fameuses quatre saisons, là. Cuatro estaciones porteñas, c'est-à-dire les saisons de Buenos Aires. Aires. Donc, typique. Bon, ça, c'est une œuvre qu'avait donné il y a quelque temps l'orchestre de chambre de Toulouse, d'ailleurs, pour orchestre, hein, qui est écrite à l'origine pour ensemble d'instruments. Et donc là, dans la transcription pour guitare, elle trouve tout à fait ce qu'il faut, quoi. Là aussi, on a l'impression que c'est écrit pour guitare. La transcription est de qui, là?
De Sergio Assad,
guitariste brésilien. Bien sûr. Sergio Assad, oui. Donc, c'est vraiment un grand, grand plaisir, avec deux bis que nous a offert Thibaut. L'un, c'est l'essence du tango, la compasita, d'un Uruguayen, je l'ignorais, qui s'appelle Gerardo Matos Rodriguez. Le deuxième bis, encore plus étonnant, c'était une interprétation de l'hymne à l'amour, la chanson d'Édith Piaf, dont la musique était de Marguerite Monod, quand même, faut rendre à César ce qui est à elle. Hein. Et donc, il y avait une tendresse, une douceur magnifique. Donc bravo, comme je l'ai écrit, l'éclectisme de Thibaut nous fait du bien.
Eh bien, on va l'écouter une première fois dans cette émission, Thibaut Garcia et sa guitare. Une pièce, vous nous direz tout à l'heure qui en est le compositeur et quel est le titre de cette pièce. On l'écoute tout de suite. Thank you. Voilà, Thibaut Garcia qui jouait une pièce d'un compositeur sud-américain paraguayen qui s'appelle
Agustín Barrios Mangore, et c'était la Mazurka Appassionata.
Un petit mot peut-être sur ce compositeur, hein, qui je pense n'est pas connu du grand public,
oui.
Très connu sans doute des guitaristes classiques.
Très connu, oui, c'est un grand compositeur pour guitare, c'était lui-même un grand guitariste, compositeur paraguayen, qui a fait une grande carrière en Amérique du Sud, qui a essayé de venir en Europe, de faire une carrière en Europe, et ça n'a pas été facile, puisqu'avec l'affrontement avec André Segovia, qui gardait bien sa place au show en Europe, ça n'a pas été facile. En revanche, Barrios, c'est un des compositeurs les plus respectés, on va dire, dans le répertoire pour guitare.
Eh bien, nous allons terminer avec Agustín Barrios Mangore. Après cette première partie, nous allons maintenant faire une pause comme il est coutume dans cette émission. Restez bien à notre écoute, nous nous retrouvons dans une minute avec Thibaut Garcia pour parler de l'association Toulouse Guitare. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, directeur de l'Orchestre En Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, et donc avec notre invité d'honneur, Thibaut Garcia.
Mélomanie. L'agenda.
Et nous poursuivons cette émission avec vous, Thibaut Garcia. Si nous vous recevons aujourd'hui à Mélomanie, c'est bien sûr pour parler de votre carrière et de vos concerts récents et futurs à Toulouse, comme nous l'avons fait il y a quelques instants, mais aussi et surtout pour évoquer une actualité toute brûlante, puisque ce jeudi, avec les membres de l'association, vous avez tenu une conférence de presse pour annoncer le lancement, les projets et même la saison prochaine de Toulouse Guitare. Vous allez donc pouvoir nous en dire un peu plus sur cette initiative. Alors d'abord pour commencer, qui sont les fondateurs, les membres de l'association? Quels sont les objectifs de Toulouse Guitare? Dites-nous tout.
Alors nous avons une belle équipe à Toulouse Guitare, nous sommes 8 membres fondateurs. C'est aussi une histoire de famille puisque mes parents sont dans l'association, mes parents adorent la musique, adorent la guitare. Aussi les professeurs du conservatoire de Toulouse, les professeurs de guitare. Et avec des amis, donc on a décidé de fonder cette association il y a un peu moins d'un an pour organiser une saison artistique autour de la guitare à Toulouse, puisque la guitare, nous sommes tous d'accord pour dire qu'elle fait partie aussi du patrimoine musical français. On a eu des artistes comme Alexandre Lagoya, Ida Presti en France, qui ont quand même été mondialement connus et reconnus. Et curieusement, en France, on trouve peu de concerts de guitare classique, depuis, on va dire, que Lagoya nous a quittés. Et on avait envie tous de partager le répertoire de cet instrument avec les gens qui aiment la guitare ou ceux qui veulent la découvrir. Et Toulouse étant une ville culturelle importante, on a parlé de ce projet, on a commencé à monter cette association. Projet qui est pour l'instant bien reçu, vraiment bien reçu. Et nous commençons la saison avec un premier concert en octobre cette année.
Donc oui, il va y avoir une saison de concerts, ça sera la première qu'organise cette association. Combien de concerts et ils vont avoir lieu où? Parce qu'on sait qu'à Toulouse, c'est difficile de trouver des lieux pour faire des concerts. Hein.
Alors voilà, nous avons 4 concerts dans l'année et les concerts auront lieu. Donc le premier à la Chapelle des Carmélites, ensuite la Salle du Sénéchal. Il y aura 2 concerts à la Salle du Sénéchal et 1 concert au Temple du Salin.
Donc premier concert à la Chapelle des Carmélites, il n'y en aura qu'un à la Chapelle des Carmélites, le 5 octobre. Par un guitariste qui se nomme Marcin, je ne sais pas si je prononce bien, Marcin Dila, je crois qu'il est polonais.
Marcin Dila qui est polonais,
Marcin,
exactement.
Marcin Dila, polonais, alors présentez-le-nous.
Mais Marcin Dila, guitariste polonais, un des grands du monde de la guitare actuelle, c'est vraiment un beau représentant. On a voulu commencer en force avec un superbe guitariste, et il est aussi représentant de la guitare de l'Académie polonaise qui commence vraiment à former des élèves d'un grand niveau et qui commence à briller aussi sur les scènes internationales. Donc Marcin Dila, c'était une figure qu'on voulait absolument inviter. Et pour commencer l'année, c'est parfait.
Parce que quand on pense guitare classique, on pense souvent à des musiciens latins.
Oui,
est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est en fait une idée reçue?
C'est une idée reçue, c'est-à-dire que la guitare classique, pour le coup, on l'associe toujours à la guitare sèche et donc à la guitare flamenca. On fait toujours cette association, même si c'est vrai qu'il y a un lien. Alors que la guitare classique, on devrait plutôt se pencher sur le thème de musique classique avec une guitare. Donc c'est pas forcément les latins, et par exemple les français, on a une très belle école de guitare en France qui rayonne partout dans le monde, les américains commencent vraiment à avoir une belle école, les allemands, il y a vraiment pas de règles, c'est pas que les espagnols ou les argentins qui jouent bien de la guitare classique, il y a un peu tout le monde, et moi je le vois vraiment comme de la musique classique avant de la guitare en soi.
Alors là, les polonais, donc il y a une école slave de la guitare classique ?
Ah, oui, bien sûr, c'est vrai que l'école est différente, la façon d'apprendre, les méthodes sont différentes, et dans le style de jeu, on voit bien que, par exemple, ils ont une technique bien à eux, avec des doigtés très spéciaux pour faire tel ou tel type de gamme, donc c'est pas les mêmes phrasés, c'est intéressant de voir tout ça.
Alors pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'il se trouve que Marcin Dila, lui en plus, il va donner une masterclass.
Exactement.
Le lendemain, donc le 6 octobre, je ne sais pas où elle aura lieu, vous allez nous le préciser.
Elle aura lieu au Conservatoire de Toulouse. Voilà, donc on aura une salle au Conservatoire de Toulouse pour accueillir Marcin Dila, et ça aussi c'est un projet que nous avons dans l'association Toulouse Guitare, c'est que le tronc de l'association ce sera la saison artistique, mais autour de cette saison-là vont se voir organiser des projets pédagogiques, parce que ça nous semble très important pour les élèves de profiter de masterclass d'artistes internationaux. Je sais que j'ai eu peu de masterclass durant mes études, et c'est quelque chose qui m'a manqué, ou en tout cas en voyageant, j'ai vu qu'il y avait des endroits où les élèves profitaient de masterclass d'artistes internationaux, ça leur ouvrait l'esprit sur une nouvelle vision de comment travailler sa guitare, comment un artiste dans un autre pays la joue. Et c'est vrai que les élèves sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe actuellement et ne sont pas fermés sur leur façon de jouer. Donc pour nous, c'était très important aussi d'inviter ces artistes à partager un moment avec les élèves du conservatoire ou des élèves de région, parce qu'on n'est pas exclusif non plus.
Du coup, je fais une parenthèse dans la saison et je reviens aux objectifs de l'association Toulouse Guitare. Il y a la promotion de l'instrument, bien sûr, mais il y a aussi, si je comprends bien, la transmission.
Oui, ça c'est très important, et ça c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, qui nous tient tous à cœur. J'ai été élève il n'y a pas si longtemps, j'ai eu mon master il y a 2 ans.
Oui, vous êtes
donc
jeune.
Donc voilà, donc avant ça j'étais élève, et donc je me rends compte à quel point cet aspect-là est important sur le plan pédagogique et sur l'évolution des élèves aussi. Donc c'est pour ça qu'on mène à bien ce projet pédagogiquement, et ce qui est relié à ce projet-là, c'est que les premières parties de chaque artiste seront jouées par des jeunes de la région.
De la région.
Exactement, et ça, si c'est une aubaine, c'est une possibilité pour eux de pouvoir se produire dans une salle de concert en première partie de grands artistes. Moi, on m'aurait dit ça il y a 10 ans.
Et devant un large public.
On m'aurait dit, tu fais la première partie de Marcin Dila dans un mois, mais j'aurais été aux anges.
Ce sera forcément des élèves du Conservatoire de Toulouse ou pas forcément ?
Pas forcément, c'est vrai que pour l'instant ce sont des élèves du Conservatoire de Toulouse, puisqu'on commence et puis on a déjà certains élèves dont on connaît les noms qui vont jouer en première partie. Après, c'est, comme je vous dis, c'est pas exclusif au Conservatoire de Toulouse. Le but, c'est que les gens en profitent dans l'absolu, que je veux dire, un élève qui puisse faire une première partie de concert la fasse à ce moment-là chez nous.
Alors, on en arrive au deuxième concert de cette saison 2018-2019. Alors là, on parle de la Pologne, on va aller en Italie avec Bandini Chiacchiaretta, j'espère bien prononcer.
Très bien.
Concert le 7 décembre à 20h, tous les concerts sont à 20h, et là c'est à la salle du Sénéchal.
Voilà, là ce sera un concert plein de fougue, puisque ce sera un duo guitare et bandoneon, donc c'est autour du tango, je les ai vus 2 fois en concert, c'est absolument explosif, toute la salle est en folie, toute la salle debout à la fin du concert, donc Bandini Chiacchiaretta, je connais bien Gianpaolo Bandini, le guitariste, ça va être un très beau concert haut en couleur.
Le programme, ça va être quoi ? Ça va être des pièces italiennes, justement
de Je pense qu'il y aura des pièces italiennes, il y aura aussi du tango, donc il y aura beaucoup de pièces argentines. Et en général, ils mélangent un petit peu les deux, italien-argentine.
Ça me permet de préciser aussi, Marcin Dila, lui, son programme est connu, vous savez déjà ?
Non, on ne connaît pas encore le programme,
mais ce sera
la surprise. Et donc là, ce sera un récital de guitare seule, contrairement au deuxième qui est bandonné en guitare. Et c'est ça qui est intéressant pour nous aussi, c'est de montrer que la guitare n'est pas toujours seule. C'est aussi d'inclure la guitare dans un répertoire de musique de chambre. Et comme vous le voyez sur la saison, il y a 2 concerts de guitare seule et 2 concerts en musique de chambre.
Voilà, alors je pense que le suivant, qui lui a lieu le 15 février 2019 au Temple du Salin, c'est Jérémy Jouve qui va le donner, je suppose qu'il est français.
Il est français.
Lui, il va être seul.
C'est ça, récital solo.
Et qu'est-ce qu'il va nous jouer ?
Ah, lui, on ne sait pas encore le programme, il ne nous l'a pas donné, mais pareil, récital solo. Et là, ce qui est important, c'est aussi l'aspect, on fait aussi venir des guitaristes français. Parce que comme je vous disais, on a une belle école de guitare en France, et Jérémy Jouve est un porteur de cette école-là, avec notamment beaucoup de prix internationaux à son actif, dont le prix de la Guitar Foundation of America, qui est un grand prix aux États-Unis. Donc on est vraiment ravis de le recevoir, et lui aussi donnera une masterclass aux élèves du conservatoire.
Dernier concert de la saison, Antoine Boyer et Samuel Ito. Le 24 mai 2019, bien sûr, à 20h aussi, et à la salle du Sénéchal, donc il y aura deux concerts, salle du Sénéchal. Alors là, ce duo, c'est guitare et quoi?
Alors là, c'est duo atypique, puisque c'est deux guitares, sauf que c'est guitare manouche et guitare flamenca. Donc pour le coup, là, on diversifie un petit peu, et on voulait, en guise de dernier concert, faire place à la jeunesse. Donc encore une fois, puisqu'Antoine Boyer et Samuelito, ils ont à peu près mon âge, en fait. Samuelito a un an de plus, Antoine a deux ans de moins. Donc deux jeunes guitaristes très talentueux qui marcheraient bien et qui ont créé ce duo guitare manouche, guitare flamenca, qui est un petit peu atypique et qui fonctionne très bien puisqu'ils font eux-mêmes leurs œuvres et leurs arrangements. Donc ça va être une belle façon de finir en fraîcheur.
Au printemps, bah, ça sera pile dans un an. Est-ce que ça veut dire aussi donc, que cette saison n'ira pas que de la guitare classique? Ça sera ouvert éventuellement à d'autres genres?
Oui, c'est ça. Comme je vous dis, on n'est pas exclusif. On ne fait pas que de la guitare classique, que des Toulousains. Le but, c'est qu'on organise autour de la guitare classique des moments de partage. Mais comme vous voyez, il va y avoir un concert de guitare flamenca et manouche. Après, on ne va pas faire que de la guitare flamenca ou que de la guitare manouche. Ce sera toujours autour de la guitare classique. Mais par exemple, ce n'est pas exclu qu'on ait de la guitare baroque ou des instruments baroques pour les années à venir aussi. C'est ça qui nous intéresse, c'est de surtout pas se fermer et pouvoir partager ça avec tous les publics. Des saisons autour de la guitare comme ça en France, il n'y en a pas encore. C'est-à-dire qu'il y a des festivals, mais c'est des événements ponctuels. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'est que cet événement s'inscrive dans le paysage musical toulousain et français. Et donc, on a voulu choisir ce format aussi avec des concerts à peu près tous les deux mois pour que les gens puissent se fidéliser et que les amateurs de guitare et ceux qui ne la connaissent pas puissent y aller de temps en temps. Et pas se dire, tiens, j'ai raté le festival, il va falloir que j'attende un an pour
avant
y retourner.
Pouvoir écouter de la guitare. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, ces concerts qui pour l'instant ont lieu à Toulouse, bien soient un petit peu plus délocalisés en périphérie toulousaine par exemple?
Ah oui, ça c'est complètement possible. Ça c'est possible. Après pour l'instant, on va voir déjà cette année comment ça se passe.
Bien sûr.
C'est vraiment l'année d'inauguration et puis on verra. En tout cas, on est ouvert à tout ce qui peut se passer par la suite.
Avis à tous les amateurs, à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de faire des concerts de guitare dans leur commune, que ce soit en périphérie toulousaine, voire plus loin. Eh bien écoutez, je propose qu'on vous écoute de nouveau, Thibaut Garcia. On a parlé de transcription. Là, il s'agit de la courante de la partita numéro 6 BW 830 de Jean-Sébastien Bach. On l'écoute interprété par Thibaut Garcia. La courante de la partita numéro 6 BWV 830 de Jean-Sébastien Bach, joué par Thibaut Garcia. Alors, est-ce qu'il existe d'abord beaucoup de transcriptions d'œuvres de Bach pour la guitare?
Ah oui, il en existe beaucoup.
Il y a les variations Goldberg, par exemple.
Il y a les variations Goldberg à une guitare et deux guitares. Celle à une guitare, il faut s'accrocher pour les jouer. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible, mais elle existe. Et sinon, oui, on a l'héritage de toutes les pièces pour luth. On a les transcriptions des pièces pour violon, les pièces pour violoncelle, comme on vient de l'écouter, certaines pièces pour clavier. Et aussi, ça fait partie de mes projets aussi en musique de chambre, en duo de guitare. On est en train de faire des transcriptions de Préludes et Fugues du clavier bien tempéré, notamment une suite française, la deuxième. Donc oui, Bach, c'est un compositeur qui se prête vraiment à la transcription en plus, puisque l'écriture est tellement, comment dire, c'est universel, c'est-à-dire que c'est de la musique. C'est pas de la musique pour piano, c'est juste de la musique, enfin, selon moi. Donc à transcrire, c'est plus facile, même stylistiquement, ça s'adapte plus à n'importe quel instrument que d'autres compositeurs.
Et à jouer, est-ce que c'est particulièrement agréable, j'allais dire jouissif, pour un guitariste de jouer des transcriptions de musique de Bach?
Ah oui, à jouer, c'est incroyable. Après, c'est difficile. Je sais pas pourquoi c'est plus difficile, j'arrive pas encore à l'expliquer vraiment, parce que techniquement, c'est pas facile, mais il y a d'autres compositeurs. Mais musicalement, il y a quelque chose à tenir vraiment. Et par exemple, la chaconne que j'ai jouée à Saint-Pierre-des-Cuisines, c'est une œuvre qui, musicalement, est vraiment difficile à tenir du début à la fin. C'est beaucoup de travail, beaucoup de concentration. En revanche, oui, après, c'est un grand plaisir de jouer la musique de Bach.
Très bien, et pour ceux qui voudront en savoir plus sur l'association Toulouse Guitare, je recommande d'aller consulter son site internet www.toulouseguitare.fr. Nous revenons maintenant à l'actualité musicale avec le début des représentations de Macbeth, l'opéra de Giuseppe Verdi, au Théâtre du Capitole, première vendredi 18 mai, suivie de 5 autres représentations jusqu'au 29 mai. Grande œuvre d'un des géants de l'art lyrique, inspirée par une des œuvres les plus célèbres d'un des géants de la littérature mondiale. Il y a une belle distribution que va nous présenter Robert Penavert. Mais avant d'en arriver là, Robert, petit rappel peut-être sur l'histoire de cet opéra en le resituant dans l'œuvre de Verdi. Il arrive à quel moment ?
Il arrive, Verdi est jeune, il a 34 ans, c'est son 10e opéra. Mais c'est un opéra qui malheureusement à Toulouse n'a pas connu beaucoup de succès, puisque j'ai eu beau faire des recherches, la première représentation de cet opéra au Théâtre du Capitole avait servi de spectacle d'ouverture de la saison 94-95.
Ah oui, en effet.
Donc ça fait quand même quelques années qu'il avait été créé. Mais voilà, alors c'est un opéra problématique en définitive. Dans cet opéra qui s'appelle Macbeth, c'est un titre masculin, hein, et bien en fait l'héroïne c'est Lady Macbeth, ouais. Et qui est un rôle extrêmement difficile à chanter, difficile à chanter, que bien peu de sopranos osent se confronter, se mesurer à un pareil rôle. Résultat, eh bien, très peu de directeurs de théâtre l'affichent, malheureusement. Et cela dit, l'œuvre en tant que telle est une œuvre clé, parce que en fait, nous sommes au milieu du 19e siècle, et dont il y a un génie qui s'est levé outre-Rhin, qui s'appelle Wagner, et qui commence à faire parler le drame musical, et en fait, Verdi le connaît. Lui, il ne veut absolument pas s'éloigner de ça, parce que justement, il cherche un langage dramatique. Et dans cet opéra, ce langage dramatique, bien sûr, il va le faire exploser littéralement dans Othello. Mais quand on écoute attentivement Macbeth, qui est un opéra encore qui est chargé de l'ADN belcantiste de ce compositeur, avec les récitatifs, faire cabalette, ensemble, trio, duo, etc., tout d'un coup, dans cet opéra, il y a un morceau, il y a une façon, il y a une musique, il y a une écriture vocale que l'on ne connaissait pas chez Verdi. C'est évidemment l'air du somnambulisme. Et là, nous sommes complètement dans l'annonce de ce que sera le grand Verdi. Alors évidemment, il fait cette tentative-là, puis ensuite, Verdi va replonger dans ses anciennes amours. Mais ce n'est pas un problème, mais c'est quelque chose, on sent bien que ce mode dramatico-lyrique le hante. Donc c'est un ouvrage clé dans le répertoire verdien.
Qui ouvre la voie vers les grandes œuvres de la maturité. Quoi.
Et ouais. C'est dommage qu'il ne soit pas davantage, mais enfin, je pense que j'expliquais globalement pourquoi il n'est pas donné. En plus, qui plus est, alors comme il n'est pas très donné, c'est un ouvrage qui, contrairement à Traviata, Rigoletto, ne fait pas le plein. Et c'est bien dommage parce que c'est aussi flamboyant que, pas musicalement, mais aussi flamboyant que Nabucco, que Le Trouvert, ou vraiment les amateurs de grandes voix, de belles voix, peuvent trouver leur compte. Mais bon, ben voilà, ben c'est comme ça. Et c'est bien dommage. Alors, il ne reste plus qu'à trouver des interprètes qui vont attirer le public. Eh bien, au Théâtre du Capitole, nous avons le retour, et nous pouvons que le saluer, ce retour d'une grande cantatrice française, Béatrice Uriah-Monzón, qui n'était pas venue au Capitole depuis 11 ans. Sa dernière venue, c'était Carmen, il y a 11 ans, et depuis, mystérieusement, elle avait disparu des radars, et vraiment, nous le regrettons beaucoup. Alors, en fait, Béatrice Uriah-Monzón va dire, oui, Carmen, oui, bon, c'est un mezzo, alors c'est quoi Lady Macbeth, c'est un soprano, un mezzo-soprano. En fait, quand on regarde un peu la partition, c'est pour ce type de voix que l'on appelait les sopranos dramatiques Falcon, c'est-à-dire avec un médium très ample, avec un appui dans le grave quand même, qui permet de passer l'orchestre, et un aigu qui est sollicité, ben, la preuve, dans cet opéra, Verdi, pas trop à quoi il a pensé, mais à la fin, c'est à la dernière note que chante Lady Macbeth. Et Dieu sait qu'avant, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup chanté parce qu'elle est en permanence sur scène. Eh bien, c'est un ré bémol. Donc, en fait, pour un soprano dramatique, un ré bémol, c'est, je ne veux pas dire dramatique, mais très souvent, malheureusement, il y a eu des accidents. Et lorsqu'il n'y avait pas des accidents, c'est parce que tout simplement, l'interprète, soit l'octave, clavier, soit, voilà, le donnait pas de risque, évidemment, de le craquer, tout simplement. En plus, Verdi, pour faciliter la chose, si je peux dire, a bien écrit sur cette note « fil di voce ». Ça veut dire, en plus, il faut le donner, en gros, en triple piano, quoi, voilà, ce qui n'est pas forcément plus facile. Bon, mais en fait, Uriah Monzón a abordé ce rôle parce qu'elle est en plein tournant dans son répertoire. La première fois qu'elle a abordé les rôles de soprano, c'était en Avignon il y a 5 ou 6 ans, et j'étais allé l'écouter, et bien peu de gens portaient crédit à ce changement de répertoire, et en fait, elle avait fait une Tosca absolument remarquable, ce qui lui a donné envie de continuer dans ce répertoire-là. Et lorsqu'on lui a proposé Lady Macbeth, ben elle a dit « Pourquoi pas, je veux bien essayer ». Sa première véritable interprétation scénique, c'est fait à la Monnaie de Bruxelles en 2016. En fait, ça a bien fonctionné. Et voilà pourquoi cette année, Christophe Gristy l'a invité à renouveler ce rôle pour la deuxième fois à Toulouse. Et je l'ai rencontré, on a discuté longuement avec Béatrice Uriah Monzón ce rôle-là. Et en fait, elle est ravie maintenant de ce nouveau répertoire auquel elle vient d'ajouter il y a quelques mois à Saint-Étienne, Adrien Lecouvreur. Et elle va ajouter en 2019, Gioconda, et elle abandonne définitivement le répertoire de mezzo-soprano. Et elle dit que, en fait, aujourd'hui, elle trouve que sa voix s'épanouit pleinement. Voilà. Mais bien évidemment, Macbeth, c'est pas que Lady Macbeth.
Ah oui, juste son partenaire, oui. Macbeth, qui
voilà,
joue Macbeth.
Donc, c'est un grand baryton ukrainien qui s'appelle Vitaly Bily et que l'on a eu souvent au Capitole, oui. Et qui a à chaque fois assuré des succès absolument remarquables. Après, les autres rôles sont vraiment, je dirais pas marginal, mais enfin...
Plus secondaires, oui.
Secondaires, oui. Voilà. Oui. Mais chacun a un air quand même. Donc, Banco, c'est la basse. Et donc, il a un air lui aussi. Et c'est une basse coréenne. Sung Sin, ça va être ça à peu près.
Oui,
et
tout le monde a compris.
Voilà, tout le monde a compris, parfait. Et il a un air que tout le monde attend, bien évidemment. Il a que ça, mais il est très bien écrit. Verdi savait en particulier écrire pour les basses, vous le savez. Ensuite, il y a un changement de distribution, puisqu'en fait, le ténor coréen qui était prévu a fait défaut, je ne sais trop quoi. En l'occurrence, ce n'est plus lui. Et pour le remplacer, nous en avons deux. Deux ténors que, personnellement, je ne connais pas. Il y en a un tout jeune qui est de l'âge de Thibaut Garcia, c'est dire. C'est un géorgien qui s'appelle Otar Georgikia. Je garantis pas la prononciation. Et un autre qui est norvégien. Je ne garantis pas la prononciation non plus, qui s'appelle Brock Magnus Todenes.
Ah, ils vous ont gâté, là.
Voilà. Donc, oui. Voilà. Mais bon, ça va être des découvertes, c'est passionnant. Parce qu'en définitive, voilà.
Oui, on va peut-être découvrir
les ténors lyrique, ont le rôle de Macduff. Et Macduff, alors, pour le coup, certes, il n'a qu'une scène, mais quelle scène ? C'est la scène de clôture de l'œuvre, avec récitatif, chœur, cabalette, avec orchestre. Cœur, enfin, c'est somptueux et il finit l'œuvre de manière magistrale et tout le monde évidemment attend le ténor dans ce passage-là. Voilà. Et donc c'est la mise en scène, c'est pas une nouveauté. Elle a été créée à Bordeaux, je pense en 2011. Elle est signée du regretté Jean-Louis Martinotti qui nous a quitté en 2016. Et c'est
Michele Gamba,
dirigé par un maestro italien que je ne connais pas.
Michele Gamba, ça serait une première, je crois.
Michele Gamba, c'est une première au pupitre de l'Orchestre du Capitole. Voilà. Je pense que vu la rareté de l'œuvre à l'affiche du Capitole, vu l'intérêt de l'œuvre et vu la distribution, si j'ai un conseil à donner, précipitez-vous pour acheter vos places.
Voilà, donc les représentations de Macbeth sont données au Théâtre du Capitole les mardis 22, vendredi 25 et mardi 29 mai à 20h, ainsi que les dimanches 20 et 27 mai à 15h. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission, c'est fou comme le temps passe vite. Il me reste donc à vous remercier tous les quatre d'avoir participé à ce numéro et de l'avoir animé avec la passion et l'érudition qu'on vous connaît. Merci beaucoup Thibaut Garcia de nous avoir fait l'honneur de venir à Mélomanie et de nous avoir présenté l'association et la saison de Toulouse Guitare, dont je rappelle l'adresse du site web www.toulouseguitare.fr. Vous reviendrez dans cette émission parce qu'on aura l'occasion de vous entendre la saison prochaine aux Arts Renaissants, ainsi qu'au Théâtre du Capitole, justement avec Béatrice Uriah Monzón. Alors je signale aussi dans l'actualité, la semaine prochaine, le concert de l'Orchestre National du Capitole, samedi 26 mai à 20h à la Halle au Grain. L'ensemble symphonique toulousain sera dirigé par le jeune chef brésilien Marcelo Leninger et il accompagnera le pianiste turc Fazil C'est pour les concertos pour piano numéro 2 de Saint-Saëns. Il y a également au programme de ce concert les variations concertantes de Ginastera et la symphonie numéro 7 de Beethoven. Vous pouvez bien sûr vous renseigner et réserver vos places sur le site de l'orchestre www.onct.toulouse.fr. Et si vous voulez vous informer, réservez au Théâtre du Capitole où les représentations de Macbeth se poursuivent, je le rappelle, jusqu'au 29 mai, c'est sur le site www.théâtreducapitole.fr qu'il faut vous connecter. Je remercie Jean-Louis Arzac d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.